VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Mali. Le Royaume-Uni a annoncé le maintien de sa présence dans le pays pour 6 mois de plus dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, où les attaques des djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplient. Londres a déployé 3 hélicoptères Chinook et 100 d'hommes au Mali depuis juillet 2018. Ils y resteront jusqu'en juin 2020, a déclaré ce mardi un porte-parole du ministère britannique de la Défense. Relations France-Afrique, le président français Emmanuel Macron, qui reçoit jeudi son homologue ghanéen, tiendra le même jour un grand débat avec quelque 400 personnes issues des diasporas africaines de France, à savoir africains résidant en France, binationaux et français d'origine africaine, engagés dans les relations entre la France et le continent africain. C'est ce qu'a annoncé la présidence française. Cet échange interactif aux côtés du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, vise à présenter un tableau plus complet des échanges et des enjeux avec le continent africain. Expliquer pourquoi le président de la République française consacre autant de temps à la relation avec l'Afrique et où il veut arriver, souligne le communiqué de la présidence. Au Ghana même, la mobilisation populaire a eu raison d'un projet des autorités de doter le Parlement de nouveaux sièges qui auraient coûté 200 millions de dollars. Les précisions de Lionel Gaïma.
La campagne Drop That Chamber, renoncer à cette chambre, a mobilisé sur les réseaux sociaux des milliers de Ghanéens hostiles au projet. Une manifestation populaire était prévue samedi à travers le pays. Cette colère populaire a contraint les autorités ghanéennes à jeter l'éponge. Nous sommes une institution à l'écoute et après avoir évalué les opinions des gens, nous avons décidé de renoncer à l'idée, a déclaré Kate Addo, directrice par intérim des affaires publiques du Parlement. Les autorités ghanéennes avaient estimé qu'un nouveau Parlement pouvant accueillir jusqu'à 450 députés était nécessaire pour remplacer le siège actuel de 275 places. Le financement des travaux allait être assuré par un prêt de l'Inde. À l'appui de ce projet, la constitution ghanéenne qui prévoit d'augmenter tous les 10 ans le nombre de circonscriptions pour tenir compte de la croissance démographique. Le Parlement n'a pas besoin d'un nouveau siège, a fait savoir la société civile ghanéenne qui maintient la marche de samedi tant que les législateurs n'auront pas pris une résolution officielle annonçant l'abandon du projet.
Au Nigeria, 12 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un oléoduc détourné par des voleurs de carburant à Lagos, ont indiqué aujourd'hui les autorités. 2 personnes ont été tuées sur le coup et 10 blessés ont succombé à leur brûlure à l'hôpital où ils avaient été transférés, a souligné une responsable du ministère régional de la Santé. L'explosion jeudi dernier dans le quartier d'Ijegun, dans la capitale économique nigériane, avait fait 20 de blessés et détruit 30 de véhicules.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, la Cour pénale internationale de La Haye a reconnu hier Bosco Ntaganda, l'un des seigneurs de guerre de la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Eddy Sango a joint à Kinshasa Paul Nsapu, le secrétaire général adjoint pour l'Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Sa première question, qu'en est-il des victimes de Bosco Ntaganda?
La première question, voilà, reconnaître la culpabilité de Bosco Ntaganda. Une autre maintenant, c'est d'organiser, proprement parlant, le procès en question. Et là, ça va prendre le temps. Et le temps de la justice peut être élastique. Mais au moins, si les parties jouent leur rôle, surtout la défense, les victimes et tout ça, et les parties civiles, là, on pourrait avancer. Mais ça va prendre le temps.
Qui doivent alors attendre les victimes? Parce que la procédure semble encore longue.
Les victimes doivent s'attendre à des jours, des avocats des uns et des autres, ainsi que les interventions du procureur. Mais ce qui est plus important, c'est le fait que ces victimes, à travers leurs avocats, doivent s'organiser de sorte que toutes les matières qui leur seront présentées par les juges aient la possibilité d'être examinées et vérifiées par toutes les parties. Et donc, renvoyer quelqu'un en justice, c'est tout simplement demander la fixation de l'affaire au niveau de la Cour, et la Cour pourra alors se lancer dans une série de procès, d'audiences qui vont prendre beaucoup de temps. Si le temps qu'il faut pour ces procès peut être élastique à la Cour pénale internationale, c'est en termes d'années. Donc il faut s'attendre encore à quelques années pour aboutir au verdict de cette affaire.
Quel impact peut avoir ces procès par rapport à la situation des Lituris qui connaît un certain regain? Les affrontements reprennent entre ethnies.
C'est pour... Et à la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda, alors que l'Ituri réouvre ses plaies, doit servir d'exemple pour tout seigneur de guerre ou toute personne qui pense qu'il peut encore endeuiller le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, de la société civile congolaise en général, les défenseurs des droits de l'homme congolais et à travers le monde, nous lançons un vibrant appel pour essayer de dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité et il y aura encore des poursuites judiciaires pour tout celui qui sera cité dans la perpétration des crimes contre l'humanité. Et donc que c'est des leaders de certaines communautés qui pensent qu'ils peuvent encore s'entre-déchirer, s'entre-tuer, sachent que la justice est là, la justice pénale nationale, internationale pourra un jour saisir et les poursuivre.
Paul Nsapu, secrétaire général adjoint de la FIDH pour l'Afrique. Corne de l'Afrique maintenant, les habitants de la région continuent d'émigrer dans les pays de la péninsule arabique à la recherche d'emplois et autres opportunités. Le Premier ministre éthiopien a annoncé hier l'envoi prochain de 50 000 travailleurs aux Émirats arabes unis. C'est dans le cadre d'un programme visant à moderniser la main-d'œuvre éthiopienne, a fait savoir Abiy Ahmed. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Devant le Parlement, le Premier ministre a expliqué que des discussions sont en cours pour l'envoi de 200 000 travailleurs sur 3 ans. Abiy Ahmed a précisé que cette décision répond au programme à court terme pour réduire le chômage dans le pays. Les Éthiopiens ainsi envoyés gagneront de meilleurs salaires et pourront parfaire leurs compétences, a assuré le Premier ministre. Ce programme concerne des métiers tels que les infirmiers ou les chauffeurs. Des discussions similaires sont également en cours avec des pays européens non spécifiés et le Japon, a précisé M. Abiy. Pour lui, l'économie éthiopienne sera soutenue par de jeunes travailleurs qualifiés formés à l'étranger. En juin 2018, l'Éthiopie avait annoncé que les Émirats s'étaient engagés à injecter 3 milliards de dollars dans l'économie éthiopienne, notamment sous forme d'investissement. Désireux de se rapprocher des pays de la Corne de l'Afrique, les Émirats ont joué un rôle de médiateur avec l'Arabie saoudite dans l'accord de paix conclu à la mi-2018 entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dossier nucléaire iranien, l'Iran affirme produire maintenant de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, donc au-delà de la limite autorisée par l'accord nucléaire conclu à Vienne en Autriche en 2015. Téhéran a également mis en garde les Européens hier contre toute réaction susceptible d'envenimer la situation. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a de son côté confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à celui autorisé par l'accord. Pour sa part, l'Union européenne a appelé l'Iran à cesser et à revenir sur ses activités qui sont contraires aux engagements pris dans le cadre de l'accord, soulignant qu'elle était très préoccupée. Le président américain Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, qui dépêche à Téhéran son conseiller diplomatique pour œuvrer à une désescalade. Lundi, le porte-parole des affaires étrangères Abbas Mousavi a adressé une mise en garde à Paris, Londres et Berlin. Si ces trois capitales devaient se comporter de manière inattendue, alors nous souhaiterions toutes les étapes suivantes du plan de réduction des engagements annoncé en mai et nous mettrions en œuvre la dernière, a-t-il dit, sans préciser la nature de cette ultime étape.
Crise migratoire pour terminer. En Méditerranée centrale, le navire humanitaire Alan Kurdi a secouru 44 nouveaux migrants qui se trouvaient en détresse au large de la Libye. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'ONG allemande Sea Eyes, qui affirme que Malte a accepté d'accueillir les migrants. Dimanche soir, 65 autres migrants secourus par la Land Kurdi étaient arrivés également à Malte, en vue d'être répartis entre différents pays européens. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.